Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour décrypter l'actualité à la une ce soir. La France en alerte attentat sur l'ensemble du territoire. Une annonce de Gabriel Attal en début de soirée. Nous allons parler avec nos invités. Nathan Devers nous accompagne ce soir. Bonsoir mon cher Nathan.
Bonsoir Olivier.
Et Georges Fenech, l'ancien magistrat que vous connaissez bien évidemment très bien, est également avec nous. Bonsoir mon cher Georges.
Bonsoir Olivier.
Dans un instant, je vous le disais, nous allons revenir sur cette annonce ce soir de Gabriel Attal. La France qui bascule en alerte attentat. Mais avant, Maureen Vidal est également avec nous. Bonsoir ma chère Maureen, nous faisons un point sur les toutes dernières actualités avec vous.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. 137 morts dans l'attaque au Crocus City Hall de Moscou vendredi. Un bilan provisoire qui s'alourdit de jour en jour. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière sur le sol européen revendiquée par le groupe État islamique. Parmi les 11 personnes interpellées, deux des auteurs présumés ont été présentés devant le tribunal de Moscou, dont un placé en détention provisoire. Tout transfert forcé de population constituerait un crime de guerre. Emmanuel Macron prévient le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Lors d'un appel téléphonique, le président français a réitéré sa ferme opposition à une offensive sur la ville de Rafah. Il a aussi fait part de son intention de porter au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution pour appeler à un cessez-le-feu immédiat et durable. Enfin, top départ pour la campagne de Raphaël Glucksmann, candidat PS aux européennes. À l'occasion de son grand meeting près de Toulouse pour réveiller l'Europe, le candidat a dénoncé l'indolence et le concentré d'égocentrisme et d'indifférence face à la situation en Ukraine. Selon ses mots, 2500 personnes étaient rassemblées pour y assister.
Merci chère Maureen, nous vous retrouvons à 23h30 pour un nouveau point complet sur les dernières actualités. Je vous le disais donc à la une ce soir, la France en alerte attentat sur l'ensemble du territoire. C'est le Gabriel Attal qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux après un conseil de défense ce dimanche soir présidé par Emmanuel Macron. Vous pouvez le lire à l'antenne. À la suite de l'attentat de Moscou, un conseil de défense et de sécurité a été réuni ce soir à l'Élysée par le président de la République. Compte tenu de la revendication de l'attentat par l'État islamique et des menaces qui pèsent sur notre pays, nous avons décidé de rehausser la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé. Urgence attentat. Je vous le rappelle, le plan Vigipirate qui avait été rétrogradé au niveau 2 en janvier dernier, mais la revendication d'attentat de Moscou provient de l'État islamique au Khorassan. C'est ce qu'a précisé Matignon. Or, cette organisation menace la France et elle a été impliquée dans plusieurs projets d'attentats récemment déjoué dans plusieurs pays d'Europe, en Allemagne et notamment la France. Pierre Conneza, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, spécialiste notamment des questions de sécurité, de terrorisme et également essayiste, est en liaison avec nous pour nous éclairer sur cette alerte attentat. Bonsoir, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Quand on parle du niveau urgence attentat, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il permet, ce niveau-là?
Je crois que c'est une mobilisation supplémentaire de forces de sécurité avec des points particuliers à sécuriser qui peuvent être effectivement notamment les bâtiments à usage d'enseignement, les lieux de culte, les rassemblements. Évidemment, là, on en a un exemple. Et puis, les transports et les bâtiments publics, quoi. Donc, on a effectivement un certain nombre de cibles identifiées dont il faut renforcer la sécurité. Et je crois qu'il y a un volet de 7000 policiers et gendarmes supplémentaires qui seraient mobilisés en plus de Vigipirate, puisqu'on est toujours sous le système de Vigipirate.
Quand on lit, quand on va sur le site du ministère de l'Intérieur, on peut lire que cette alerte attentat peut être mise en place à la suite immédiate d'un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que cela voudrait dire que des groupes auraient pu être identifiés sur le territoire français en ce moment même, des groupes qui seraient en passe de passer à l'action?
Il y a toujours un volet d'attentats en gestation, ne l'oublions pas quand même. On n'est pas descendu à un niveau qui est la sécurité civile absolue. D'autre part, autant que je me souvienne, le communiqué du Premier ministre mentionne la situation en Russie, c'est-à-dire que c'est bien à l'occasion de ce massacre que tout à coup se réveille quelque chose. À mon avis, il y a deux caractéristiques qui ont provoqué la décision du gouvernement français. D'abord, on ne sait pas quels sont les gens qui ont fait l'attentat. C'est-à-dire, on dit que c'est effectivement l'État islamique au Khorassan, mais est-ce que ce sont des Tchétchènes? Est-ce que ce sont des gens venus d'Asie centrale? Est-ce que ce sont des musulmans russes, etc.? Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Parce que je rappellerai que pour le cas de la France, nous avons eu deux attentats qui étaient absolument effroyables, qui étaient les deux attentats contre les professeurs français. L'un a été fait par une famille tchétchène, les Anzorov. L'enfant est arrivé à 2 ans en France, il a fait l'école républicaine et il s'est radicalisé dans sa famille. Donc je me pose toujours une question, c'est est-ce que les Tchétchènes dont ils ont déjà montré, qui ont déjà montré la violence de leurs attaques terroristes quand ils sont en France, ne se calment pas du tout? Ça, c'est un premier point. Et le deuxième attentat, celui contre Dominique Bernard, a été fait par un Ingouche qui était élève dans le lycée. Alors, je me dis, est-ce que notre politique de droit d'asile ne mériterait pas d'être revue, si vous voulez, en fonction de la dangerosité de certaines populations?
Effectivement, c'est une question de débat que nous pourrons évoquer avec vous, Nathan Devers et Georges Fenech. Mais peut-être une autre précision, on parle de l'alerte attentat, d'un niveau qui doit être mis en place pour une durée limitée, le temps de la gestion de crise. Comment est-ce qu'on définit ce temps de gestion de crise?
C'est au Premier ministre de le décider, hein, évidemment avec l'appui des services de renseignement, des affaires étrangères, etc. Donc, on sait à quel moment on le met en place. Ensuite, selon qu'on considère que le danger diminue ou qu'on maîtrise mieux. Vous savez, si on considère, comme je viens de vous le dire, que maintenant il faut surveiller une population qui n'est plus celle qu'avait l'habitude de surveiller les services de renseignement, c'est-à-dire les populations d'origine maghrébine, moyenne-orientale, etc., et qu'il faut élargir le cercle à des populations venues d'anciennes Union soviétique, d'Asie centrale, de Tchétchénie, etc., vous voyez bien que c'est un dispositif pour lequel on n'a pas obligatoirement les moyens, parce qu'il faut avoir des traducteurs, il faut avoir des moyens de surveillance, il faut surveiller les réseaux sociaux qui se font dans des langues qu'on ne maîtrise pas. Et donc, il y a quand même le redéploiement d'un dispositif dont on ne sait pas à quel moment il sera en mesure, si vous voulez, de considérer qu'il maîtrise la situation. Donc on sait quand ça commence, on ne sait jamais à quel moment on va effectivement décider de lever l'urgence.
Alors effectivement, Matignon évoque l'État islamique au Khorassan. Beaucoup de téléspectateurs ont certainement découvert cette branche terroriste existait. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez des précisions à nous apporter sur cet État islamique au Khorassan?
Vous savez, l'État islamique est une espèce de label auxquels se sont rattachés des groupes qui étaient jusque-là un peu en état d'apesanteur. Avant, on se rattachait à Al-Qaïda, mais là, il semblait plus attractif de se rattacher au label État islamique. Donc, on a celui qui était au Moyen-Orient et qui a été réduit, si vous voulez, par l'intervention militaire. Mais on a effectivement aussi en Asie centrale, notamment, c'est ça qu'on appelle le Khorassan, c'est-à-dire, c'est une vieille appellation, si vous voulez, d'une époque mythologique où effectivement, tous ces États qui ensuite sont devenus États du RSS, plus effectivement certains États comme l'Iran, etc., étaient des États qui étaient recouverts par ce label qui n'a pas une définition très précise. Mais par contre, ça vous prouve que Daesh est effectivement une société à succursales multiples.
Merci beaucoup Pierre Conessa de nous avoir éclairé après cette alerte attentat déclenchée donc sur l'ensemble du territoire ce soir par Matignon. Merci à vous, je le rappelle, vous êtes ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Georges Fenech, déclenchement de l'urgence attentat donc qui intervient après l'attaque de Moscou, on en a beaucoup parlé, mais aussi on peut le souligner, hein, toujours avec la crainte d'importation du conflit entre Israël et le Hamas, et dans un contexte de menace d'école très récente, on va y revenir. Une réalité en tout cas, aujourd'hui ce ne sont pas les Russes qui menacent notre sol, mais bien le terrorisme islamiste.
C'est certain que nous sommes dans une période extrêmement inquiétante, on peut le dire, hein, puisque le gouvernement a estimé à ce Conseil de défense devoir relevé au plus haut niveau, urgence attentat, ça veut dire, en termes de nombre de militaires de la force Sentinelle, on passe de 3000 à 7000. En fait, les 7000, c'est la force Sentinelle qui va se déployer sur l'ensemble du territoire, et notamment sur les sites les plus sensibles. C'est également l'alerte à tous les services concernés, en premier lieu, c'est-à-dire les préfectures, les élus également, les sapeurs-pompiers, les services civils qui donnent des informations aussi à la population. À partir de cet instant, la population peut s'informer auprès de son maire, de sa préfecture et également donner de l'information car ça suppose aussi une vigilance de tous les citoyens qui doivent aussi donner des informations s'ils sont témoins de quelques mouvements ou quelque chose de suspect. Donc cette menace urgence attentat, elle sera effectivement maintenue tant qu'on aura des renseignements qui laissent craindre une possibilité de passer, qu'un groupe terroriste passe à l'acte. Le communiqué se fonde sur l'attentat qui a eu lieu à Moscou, oui, mais également sur la possibilité de l'imminence d'un attentat qui serait en train de, peut-être de commencer ou de se préparer.
C'est ce qu'il faut comprendre.
Mais on n'en sait pas.
On n'en sait pas plus.
On ne connaît pas la teneur. On sait qu'il y a eu ces menaces directes contre plusieurs dizaines d'établissements scolaires et d'autres cibles, mais on n'a pas. Et d'ailleurs, c'est un peu normal. La DGSI, le renseignement, la coordination du renseignement qui se fait maintenant directement à l'Élysée auprès du chef de l'État dispose d'informations qui ne sont pas forcément à donner à tout le public pour ne pas mettre en alerte précisément ceux qui seraient tentés de venir commettre un attentat. Moi, je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, enfin, c'est même une certitude, à l'heure actuelle, tous les services de renseignement mondiaux, européens, israéliens, américains, se concertent et échangent de l'information. Et au niveau européen, ça se passe par la base d'échange et de coordination d'Europol, avec Interpol au niveau mondial. Donc il y a une situation d'alerte de tous les services de renseignement. Il y a des menaces réelles. On sait maintenant que l'État islamique est en capacité d'exporter des attentats, de commanditer et d'envoyer des commandos. Maintenant, on le sait, ils l'ont fait à Moscou, ils peuvent le faire ailleurs. Et n'oubliez pas aussi les menaces d'Al-Qaïda. Là, on parle de l'État islamique, mais il y a aussi Al-Qaïda qui avait menacé la France, c'était en septembre 2023, ministère, ambassade, à la suite d'un auto-da-fé, je crois, du Coran en Suède, et également de la loi que nous avons, enfin, les dispositions qui ont été prises pour interdire l'abaya en France. Ça avait excité un peu ces mouvements-là. Et Al-Qaïda avait proféré des menaces très précises. Vous savez, quand un des groupes, parce qu'ils sont très rivaux en réalité, un groupe commet un attentat de cette ampleur, on peut craindre aussi, dans le cadre de cette concurrence des groupes terroristes, qu'Al-Qaïda aussi se manifeste d'une manière ou d'une autre.
On va s'intéresser dans un instant à la question des menaces qui ont visé des écoles, des établissements scolaires ces dernières heures. Mais avant, Nathan Devers, c'est vrai que nous découvrons que cette idéologie, finalement, est loin d'être morte et qu'elle ressurgit ici, aujourd'hui, en Asie centrale. Cela montre à quel point, finalement, aujourd'hui, partout dans le monde, l'État islamique est en mesure de reprojeter des actions, et notamment en France.
Oui, bien sûr, l'islamisme n'est jamais mort, en dehors même de l'État islamique. Il ne suffisait pas d'éradiquer Al-Qaïda, ou en tout cas de faire considérablement baisser l'influence d'Al-Qaïda, de tuer Ben Laden, de tuer les dirigeants d'Al-Qaïda, pour tuer l'islamisme, puisqu'il est rené avec l'État islamique. Et il ne suffisait pas non plus de l'éradiquer en Irak et en Syrie pour en finir avec l'idéologie. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui prévaut à toutes ces attaques, ce qui est à l'origine de toutes ces attaques, c'est fondamentalement une idéologie. Oui. Ensuite, il y a des armes, ensuite, il y a des fanatiques, ensuite, il y a des barbares. Mais initialement, c'est un assemblage, une concaténation d'idées. Alors juste deux petites remarques complémentaires à ce qu'a dit Georges, et avec lesquelles j'étais parfaitement d'accord, parce que c'est vrai que c'est très difficile de commenter un sujet sur lequel nous n'avons pas toute l'information, nous n'avons que la partie visible de l'iceberg. Mais deux remarques. Il me semble qu'on a connu récemment deux phases dans notre rapport en France aux attentats. Une première phase qui était globalement, notamment pendant le mandat de François Hollande, je ne dis pas qu'il y a une corrélation avec son mandat, mais qui était le moment où il y avait des attentats de masse organisés par des cellules terroristes depuis l'étranger, avec énormément de budget, avec des gens qui étaient super entraînés, et ça a donné ce dont on se souvient, le Bataclan, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, etc., etc. Et disons que depuis à peu près l'élection d'Emmanuel Macron, mais encore une fois, je n'en fais pas une corrélation parce que c'est lié à l'état du monde, mais à peu près cela, on était dans une situation où ces attentats-là n'avaient plus lieu et que ce qui avait lieu, c'était des loups solitaires. Il me semble qu'aujourd'hui, on est en train de revenir, j'espère, je touche du bois qui n'est pas sur le plateau, que ça n'arrivera pas en France, mais en tout cas qu'on revient dans le monde et qu'on peut revenir en France à cette phase initiale. Vu l'état du monde, le conflit israélo-palestinien, le conflit russo-ukrainien, la renaissance des islamistes un peu partout, à cette phase-là, deux cellules qui soient organisées. Et c'est à mon avis pour ça que Gabriel Attal et le gouvernement ont pris cette décision. Et la deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que quand même, quand on regarde ce qui a déjà été commis en matière de barbarie par l'État islamique du Khorasan, c'est intéressant de remarquer que, je crois que ça n'a pas été fait comme analyse, mais qu'ils s'en prennent souvent à des terrains où il y a déjà des tensions qui n'ont rien à voir avec eux. Ils avaient fait l'attentat de l'aéroport de Kaboul. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, personne s'attendait à les voir venir parce qu'il y avait toutes les tensions avec les talibans, les Américains, etc. Et ils étaient arrivés à ce moment-là. Ils ont fait plus récemment l'attentat en Iran, où l'Iran pensait au début que c'était peut-être Israël ou peut-être des Américains ou peut-être je ne sais qui. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ne voyaient pas venir l'État islamique. Et avec nos yeux d'occidentaux, ça peut être, on peut être surpris par la situation. En fait, évidemment, il y a des choses, il y a des logiques qui sont profondes, que ce soit dans les rivalités entre l'État islamique et les talibans, que ce soit la rivalité évidente entre les chiites et les sunnites. Mmh. Et aujourd'hui, ils ont fait à peu près la même chose quand même en Russie.
En Russie, ouais.
Même s'ils ont des revendications et qu'ils ont une haine vis-à-vis de ce qu'a pu faire la Russie en Tchétchénie ou ailleurs, c'est une chose. Mais en tout cas, personne ne s'attendait à les voir venir ici maintenant.
On va s'intéresser en détail justement sur cet attentat qui a eu lieu à Moscou et les conséquences. Mais avant, restons en France avec toujours cette alerte attentat, on le disait donc, qui a été mise en place ce soir par Matignon. Dans ce contexte-là, des messages de menaces visant des établissements des Hauts-de-France ont été diffusés vendredi soir, samedi matin, via l'espace numérique de travail des élèves, un espace numérique qui a été piraté. C'est ce qu'ont indiqué les rectorats d'Amiens et de Lille. Alors, c'est la deuxième fois en une semaine, puisque cela a été le cas pour des établissements d'Île-de-France. Entre failles de sécurité des logiciels et erreurs humaines, ces piratages, eh bien, se sont multipliés ces dernières années. Les explications de Sarah Varny.
De nouvelles académies ont été visées par des piratages de leur compte ENT. Si du côté de l'Académie de Lille, le nombre d'établissements touchés n'a pas été communiqué, du côté d'Amiens, ce sont 5 établissements, 3 lycées et 2 collèges qui ont été piratés, selon la préfecture de la Somme.
Vers 12h15, on a bloqué l'ENT, c'est-à-dire l'espace numérique de travail, parce qu'il y avait des usurpations d'identité. Et on ne voulait pas justement qu'il y ait des menaces qui soient faites par la messagerie de l'espace numérique de travail. On s'est mis d'accord avec le rectorat et donc on a tout coupé. Ce n'est pas une cyberattaque d'ampleur, mais c'est surtout de l'usurpation d'identité. Il ne s'agit pas de créer de l'inquiétude, il ne s'agit pas justement d'avoir une psychose qui puisse se développer. C'est la raison pour laquelle on a pris la décision justement de tout fermer.
La préfecture de la Somme souligne que les établissements resteront ouverts ce lundi dans des conditions de sécurité renforcées. Mercredi et jeudi, une cinquantaine d'établissements d'Île-de-France ont subi un piratage similaire. Et en janvier dernier, des établissements scolaires avaient été évacués après un piratage. Des cyberattaques des ENT qui se multiplient ces dernières années, ce qui n'étonne pas les experts en sécurité numérique.
Les systèmes de communication des établissements sont souvent assez ouverts, parce que c'est des systèmes qui doivent permettre de communiquer avec les parents d'élèves, de communiquer avec les élèves aussi de temps en temps. Donc c'est a priori des systèmes qui sont quand même relativement ouverts, des systèmes qui sont faits pour communiquer plutôt que avec une optique de cybersécurité renforcée.
Gabriel Attal a annoncé un audit de ces plateformes ENT. En parallèle, les chefs d'établissement touchés ont déposé plainte et les services d'enquête spécialisés ont été mobilisés pour identifier le ou les auteurs.
Voilà pour la question des cyberattaques, Georges Fenech, mais des menaces qui résonnent particulièrement ce soir avec le déclenchement de l'urgence attentat. Ces menaces, selon vous, par rapport aux éléments que nous pouvons avoir, on va peut-être voir d'ailleurs les différents messages qu'ont reçus les élèves. Pour vous, on est face à des menaces réelles, il faut les prendre au sérieux, plutôt des canulars, une déstabilisation étrangère. Comment est-ce que vous sentez les choses ce soir ?
Ah, c'est très compliqué hein, d'avoir une idée très précise.
On peut lire à l'antenne, on va peut-être rappeler aux téléspectateurs, la police est inutile, nous leur tirons dessus à vue, vous serez les prochains sur la liste et vous allez exploser bande de sales mécréants, je vais exploser votre bâtiment construit avec la richesse de nos frères africains, ensuite je vous tuerai un par un, bande de sales gouffards de merde. Donc effectivement, ce message n'est pas rassurant. Des experts du terrorisme disent que ça ne ressemble pas vraiment à des messages de groupes terroristes, puisque déjà le fait de prévenir, ce n'est pas dans les, dans les habitudes. Néanmoins, on ne peut pas ne pas passer à côté.
Bien sûr, et on ne peut pas, évidemment, prendre tout cela à la légère. Ce n'est pas possible au contexte actuel. Ce dont on est certain, c'est quand il y a des messages qui passent par les canaux, j'allais dire, entre guillemets, officiels de ces organisations terroristes. On a vu notamment l'agence, vous savez, l'agence, comment elle s'appelle, l'agence AMAC,
ouais.
Qui est l'agence officielle, qui diffuse ces messages par la messagerie Telegram. Là, vous pouvez être sûr, et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait j'insiste bien, pour l'attentat de Moscou à trois reprises. C'est l'agence AMA qui est parfaitement authentifiée par nos services de renseignement et tous les services de renseignement qui a revendiqué l'attentat de Moscou. C'est pour ça que il est extrêmement difficile pour Vladimir Poutine de ne pas tenir compte du fait que ces revendications sont authentifiées.
Et pourtant, il garde le silence. Ça, on pourra y revenir.
Voilà. Qu'est-ce que ça... On y reviendra, oui. Mmh. Mais pour ce qui concerne, effectivement, ces menaces directes, elles sont quand même précises.
Oui.
Hein. C'est pas... On voit bien qu'il y a un message qui est quand même élaboré avec un discours, avec des mots spécifiques. Donc, il est normal que nos services les prennent très au sérieux, prennent les mesures de prévention qui s'imposent, mais également qui enquêtent pour identifier la provenance. Mmh. Et là, nous avons des services très spécialisés de cybercriminalité. Il y a même, vous savez, maintenant un pôle spécialisé au parquet de Paris, hein, qui, des magistrats spécialisés. Et donc, il faut espérer que les auteurs soient identifiés le plus rapidement possible.
Tout cela dans le contexte, donc, on le rappelle, de l'attentat de Moscou qui a eu lieu vendredi. Le silence de Vladimir Poutine est tenace hein, sur la revendication de l'État islamique. On va en parler avant, mais avant, petit retour sur cette journée, puisque la Russie a observé une journée de deuil national hein, après le massacre dans cette salle de concert qui a fait 137 morts, je vous le rappelle, dont trois enfants. L'attaque la plus meurtrière hein, sur le sol européen revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Des moscovites, on le comprend, encore sous le choc aujourd'hui. Écoutez.
Je suis allée à l'église de la Résurrection et j'ai prié. J'ai mis des cierges pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? J'ai fait des cauchemars toute la nuit à cause de ce qui s'est passé. J'ai vu toutes les infos, les images, j'ai pleuré. C'est très dur. C'est une grande perte pour nous tous. Honnêtement, je n'ai pas les mots. Cela m'a écrasée moralement. J'ai été profondément touchée parce que Crocus, c'est un endroit où je suis allée souvent. J'ai vraiment de la peine pour ces gens qui sont morts pour rien.
Nathan Devers, à 7h, nous avons un ennemi commun avec la Russie, c'est l'État islamique. Nous nous souvenons de l'après-Bataclan, c'était le monde entier qui était au chevet de la France. Les Russes, d'ailleurs, déposaient hein, devant l'ambassade de France des fleurs. Il y avait des minutes de silence lors des matchs de football. Ça n'a pas été le cas hier, par exemple, lors d'Allemagne-France. Le contexte géopolitique, finalement, il a totalement éludé ou pas la question du soutien international à ses victimes?
Il y a un moment où le contexte ne peut pas supprimer la compassion inconditionnelle, sans réserve, sans nuance, sans virgule, qu'on doit à des civils qui se font massacrer dans une salle de concert. J'étais pas là ce week-end quand ça a eu lieu, mais j'ai observé quand même, j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de blabla sur le moment de la part des commentateurs dans le débat public, qui allaient chacun déjà de leur hypothèse explicative, oui, de leur analyse, de leur petite piste. Alors les gens se prenaient pour Sherlock Holmes. Moi, quand j'ai appris ce qui se passait dans cette salle de concert, plus qu'une seconde, une soirée, 24 heures, 48 heures, on suspend toute analyse géopolitique. On pense au fait qu'il y a des civils qui étaient en train d'assister, d'écouter de la musique, qui n'avaient fait de mal à personne, des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées, qui se font massacrer sans aucune raison, dans des conditions qui, évidemment, nous rappellent le Bataclan. Et il me semble que la dignité oblige, dans ces circonstances-là, d'exprimer une compassion totale envers les victimes, sans même savoir, au moment où les faits sont arrivés, on n'avait aucune piste, on ne savait pas si c'était un attentat sous false flag de Vladimir Poutine, si c'était l'islamisme, si c'était lié au conflit en Ukraine, enfin on ne savait rien. Mm. Mais juste, on voit bien qu'il y a des victimes absolument innocentes. Et je n'ai pas vu beaucoup ça dans le débat public et ça m'a marqué.
C'est vrai que Georges Fenech, très vite, le contexte a été mis en avant.
Une petite chose. Bon, là maintenant, on n'est plus il y a deux jours, on a quand même une revendication qui est claire, l'État islamique qui a filmé, qui a diffusé les films pris en caméra subjective des attentats, à moins d'être super super complotiste, il me semble là quand même qu'on a tous les éléments qui sont en train de se décider, et on a le chef d'État du pays en question qui nie la revendication. Donc c'est vrai que c'est encore une fois, compassion envers les civils ne veut pas dire compassion envers le régime qui dirige ces civils-là.
Et effectivement, Emmanuel Macron d'ailleurs qui a refait un message aujourd'hui au JDD, Georges Fenech, pour rappeler sa compassion au peuple russe. Mais il n'y a pas eu finalement ce soutien international vis-à-vis des victimes comme on a pu le voir lors des précédents.
Il y a eu quand même des réactions. Il y a eu le Premier ministre britannique aussi qui est intervenu, mais il n'a pas eu effectivement, comme après ce qui s'était passé chez nous.
Voilà. Très vite, le contexte international, le contexte géopolitique est revenu devant...
Il est évident que là, nous devons exprimer toute notre solidarité vis-à-vis des victimes innocentes russes. Ce n'est pas parce qu'il y a un conflit, évidemment, dans lequel nous sommes, qu'on soutient l'Ukraine, qu'il faut ne pas avoir une pensée pour ces victimes de ces actes de terrorisme. Donc je pense, moi, ce qui m'interpelle à cette heure-là, pour tout vous dire... Oui. Je me pose quand même des questions qui, pour l'instant, n'apportent pas de réponse.
Lesquelles ?
Comment se fait-il que ces auteurs sont rentrés avec une telle facilité, avec des armes lourdes, dans ce grand centre de loisirs commercial ? Ça, c'est ma première interrogation. Alors qu'on est à une encablure des ministères russes, on n'est pas loin, c'est tout à proximité, qu'on sait très bien que la ville de Moscou est ultra surveillée par des tas de caméras et de militaires et de policiers. Première interrogation, le temps qu'il a fallu aussi pour les premières forces d'élite des forces d'ordre d'intervenir une heure et demie, alors qu'ils sont à proximité, ils sont là. Chez nous, on ne met pas plus de 20 minutes pour que les forces d'élite interviennent à n'importe quel point du territoire aujourd'hui.
27 minutes lors de l'attentat du Bataclan.
Exactement. Donc ça, c'est la deuxième interrogation. Pourquoi un temps aussi long ? Autre question, comment se fait-il qu'ils aient pu repartir avec une telle facilité, finalement, faire plusieurs centaines de kilomètres ? Et enfin, la rapidité de cette enquête qui a permis de les interpeller, de les identifier, de les mettre en examen et de les mettre déjà en détention provisoire.
Exactement. Les quatre assaillants viennent d'être placés en détention provisoire. C'est une information qui nous est parvenue il y a quelques
vraiment,
minutes.
Tout est extrêmement étonnant. Sur le mode opératoire, la facilité d'opérer, la lenteur de l'intervention, la facilité d'échapper, et l'extrême rapidité. Ils ont été identifiés, interpellés, mis en garde à vue, ils auraient déjà passé des aveux et mis en examen et écroués. Vraiment, ça me paraît tout à fait étonnant.
Donc si je vous suis, vous semblez dire que vous pensez que ce n'est pas exclu que... le régime russe, c'est ça ce que vous voulez dire.
Je me pose simplement ces questions. Je suis très étonné de la manière dont les choses se sont passées avec un si grand nombre de victimes. Une heure pour intervenir, plus d'une heure, alors que c'est à un ou deux kilomètres maximum des ministères russes.
Il y a eu des questions. Il y a eu des questions de circulation très compliquées à cette heure-là. Effectivement, il y a eu des arguments avancés pour expliquer le retard des forces d'élite. Il y a eu des interrogations aussi de savoir pourquoi les hélicoptères n'avaient pas été envoyés rapidement. Effectivement, il y a beaucoup de zones d'ombre encore. On en parlera après le journal. Mais ce silence aussi de Vladimir Poutine, qui est tenace sur la revendication de l'État islamique, pourtant... C'est vrai qu'il y a des preuves, Nathan Devers.
Oui, je pense vraiment que pour l'instant, la question n'est pas encore... On a ces revendications de l'État islamique. Je l'ai dit, les vidéos en caméra subjective, ça montre quand même qu'ils ne sont pas étrangers à l'affaire, parce que pour posséder ces vidéos, il faut qu'elles leur aient été envoyées. Donc pour l'instant, c'est la piste qui est quand même ultra, ultra privilégiée. Il me semble quand même que s'il y a d'autres pistes, celle que vous indiquez par exemple, qui n'est pas complètement absurde au regard de l'histoire des 20 dernières années de la Russie où c'est déjà arrivé des choses analogues. Mais si d'autres pistes devaient être épousées, il faudrait que ce soit avec des éléments tangibles et pas avec de la rumeur. C'est pour ça que je vous dis que moi j'ai été gêné tout de suite quand j'ai vu, notamment si j'ai suivi par Twitter, des gens qui étaient des géopolitologues du vendredi soir ou du dimanche matin raconter ceci, raconter cela. Il me semble quand même... que de toutes les manières, les services américains de renseignement, notamment, font un travail de documentation où s'ils ont des éléments, ils les sortiront et s'ils veulent les rendre publics,
ils les rendront publics. Ils ont assuré que c'était l'État islamique de Washington.
Voilà, c'est pour ça que je le dis. Voilà. S'il y a une autre piste, donc c'est pour ça, il me semble qu'il ne faut pas, sans éléments tangibles, donner des signes.
Vous avez tout à fait raison.
Et donner des hypothèses.
Alors, on va revenir, il est 23h30, on va revenir justement sur le silence de Vladimir Poutine et sur le profil des assaillants dans un instant. Mais avant, Maureen Vidal nous a rejoint, 23h30, pour un point sur les toutes dernières actualités. Maureen.
La France en urgence, attentat, le plus haut niveau du plan Vigipirate a annoncé Gabriel Attal, conséquence de l'attentat de Moscou qui a fait 137 morts vendredi. Emmanuel Macron a présidé ce soir à l'Elysée un conseil de défense au vu des menaces qui pèsent sur la France. Le niveau d'urgence a été décrété. Après l'attentat du Crocus City Hall à Moscou qui a fait 137 morts, la Russie était en deuil national. Aujourd'hui, le président Vladimir Poutine s'est recueilli et a allumé un cierge à la chapelle de sa résidence en l'honneur des disparus, tout comme de nombreux Russes encore sous le choc de ce massacre sanglant. La messe des rameaux, célébrée à Gaza dans l'unique église de la ville. Les fidèles se sont réunis pour prier pour la paix. Depuis le début de la guerre, plusieurs familles chrétiennes de Gaza se sont réfugiées au sein de l'église de la Sainte Famille.
Merci beaucoup, ma chère Maureen. Nous allons aborder maintenant, si vous le souhaitez, ce silence de Vladimir Poutine après les revendications de l'État islamique. On peut le rappeler encore ce matin, et ce pour la troisième fois, l'organisation terroriste s'est manifestée en publiant des vidéos. Mais avant, peut-être un mot sur les auteurs, les assaillants, puisque vous le disiez il y a un instant, effectivement, les quatre assaillants présumés ont déjà été placés en détention provisoire. Ils ont été interpellés très rapidement. Alors, ils seraient originaires du Tadjikistan, pays touché par le djihadisme. Qu'est-ce que l'on sait à cette heure de ces assaillants? Juliette Sada nous donne des précisions, on en parle ensuite.
Menottés, les yeux bandés, les quatre suspects de l'attentat de Moscou arrivent au siège du comité d'enquête russe, institution liée au Kremlin. Sous très haute escorte, les assaillants présumés doivent être auditionnés devant les enquêteurs, censés demander à un tribunal leur placement en détention provisoire. Selon le ministère russe de l'Intérieur, les quatre suspects arrêtés seraient étrangers, originaires du Tadjikistan. Les services de renseignement russes indiquent qu'ils s'apprêtaient à fuir vers l'Ukraine. Leur traque aura duré plusieurs heures avant qu'ils ne soient confiés à des militaires. Sur ces images publiées sur une chaîne Telegram proche du Kremlin, les suspects apparaissent le visage ensanglanté lors de leur interpellation. Au cours d'un interrogatoire sommaire, deux des suspects auraient avoué leur culpabilité, l'un disant avoir agi pour de l'argent, mais sans nommer de commanditaire. Depuis le drame, aucune mention de l'État islamique par le pouvoir russe. Le groupe djihadiste a pourtant publié une vidéo des assaillants à visage flouté et revendiqué l'attentat. Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a déclaré ce dimanche un jour de deuil national.
Alors Georges Fenech, ce sont des faits qui semblent confirmer l'attentat, un attentat de l'État islamique. La nationalité des quatre assaillants, ils seraient d'origine du Tadjikistan. On va peut-être voir quelques images justement qui nous sont parvenues il y a quelques minutes. Je vous le rappelle, ils ont été placés en détention provisoire. Juste avant, ces images ont été tournées. Mais Georges Fenech, il y a ce silence de Vladimir Poutine, on l'entendait dans le sujet, sur les revendications de Daesh. Il se tourne vers l'Ukraine. Pour lui, il n'exclut pas que cette attaque vienne de l'Ukraine. Finalement, c'est ce que l'on peut décrypter. Peut-être veut-il s'appuyer sur cet attentat pour ensuite...
Il ne l'a pas dit de cette façon-là.
Il ne l'a pas dit de cette façon-là.
Il n'a pas dit que l'attentat venait de l'Ukraine. Non. Il a précisé que les assaillants s'enfuyaient peut-être vers un corridor pour se réfugier en Ukraine.
Alors beaucoup l'ont interprété comme...
Une forme de complicité, en réalité, de l'Ukraine. C'est ce qu'il a laissé entendre. Et il n'a pas évoqué du tout, effectivement, l'État islamique. Maintenant, ils les ont à disposition. Alors, la justice russe, ce n'est pas la justice française. On n'a jamais su, par exemple, l'école de Beslan, etc. C'est resté... Relativement à l'Ukraine, il n'y a pas eu vraiment d'enquête, on peut dire. Ouais. Là, ils les ont sous la main. Nous, on ne les avions pas sous la main, puisqu'ils avaient tous été neutralisés. Les Samy Amimour, etc., avaient été abattus par les forces de l'ordre au Bataclan, les frères Kouachi abattus, l'affaire de l'hypercachère, vous vous souvenez, Koulibaly, ils ont été neutralisés.
Alors, ils ont été jusqu'au martyr, là aussi
ils ont été jusqu'au martyr, ce qui est la grande différence avec cette affaire. Hein. C'est la grande différence, ils ne sont pas allés en kamikaze, en chaïd, mourir, pour aller au paradis, etc. C'est la grande différence. Hein. Mais eux, ils les ont. Donc les interrogatoires devraient permettre de remonter les commanditaires, savoir qui les a armés, qui les a financés, comment ça a été préparé. Même si on a une revendication d'État islamique, l'enquête devrait pouvoir... Malheureusement, je ne suis pas certain qu'on ait un jour ou l'autre toutes les réponses, parce que la Russie nous a habitués par le passé à ne pas donner les réponses qu'on était en droit d'attendre.
Pourquoi ce silence, Nathan Devers ? Je vous donne la parole tout de suite, mais on va écouter le géopolitologue Gérard Vespierre qui donnait tout à l'heure quelques précisions justement sur la présence très forte de musulmans dans la Fédération de Russie et ce qui pourrait expliquer peut-être la crainte de Vladimir Poutine de s'attaquer à un nouveau front, celui des djihadistes. Écoutez-le.
Ouvrir le dossier des rapports de la Russie avec l'univers musulman, qui représente pratiquement 15% de la population russe. 20 millions de Russes sont de confession musulmane. Donc le dossier de l'État islamique, des rapports avec le monde musulman, est particulièrement lourd. Il y a une fuite, effectivement, devant ce dossier qui ne veut pas être un deuxième front intérieur et politique.
Effectivement, Nathan Devers, une explication qui vous semblerait crédible ou pas ? Alors, pour Georges Fenech, non. Vous direz pourquoi, Nathan Devers ?
Je pense quand même que quand Vladimir Poutine dit dans son discours que ses assaillants sont partis pour s'enfuir vers l'Ukraine, version qui est d'ailleurs contestée, quand il ne nomme pas l'État islamique, c'est évidemment... Et quand, autour de lui, beaucoup d'officiels ont dit... Si Zelensky, ou d'officiels ou de gens, de journalistes, etc., on dit si Zelensky est impliqué d'une manière ou d'une autre, on va le tuer. Hein, c'est ce qui a été dit autour de lui. C'est quand même pour faire croire, en tout cas, à sa population que l'Ukraine n'est pas étrangère à cette affaire, ou en tout cas pour n'empêcher en rien que sa population puisse adhérer à cette idée-là. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que si, en effet, cette version des faits-là qui est. Semble-t-il, et à peu près attesté, est la bonne, eh bien, il s'agit quand même de vouloir camoufler un échec sécuritaire majeur. Parce que là, c'est quelque chose d'énorme. Et puis, la troisième chose que j'aimerais dire, c'est que les quatre assaillants sont évidemment, si leur culpabilité est avérée, si ce sont vraiment eux qui ont fait ça, ce sont des monstres. Hein. Je ne mets pas de la moindre nuance par rapport à ça. Et je l'ai dit tout à l'heure.
Oui.
Est-ce que c'est une raison, quand on en arrête un, pour couper son oreille et la lui faire manger en lui demandant si c'est bon, pour électrocuter les testicules de l'autre et le faire comparaître avec une sonde urinaire, pour torturer un troisième. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, en France, et on s'en souvient très bien, on a été marqués souvent par le terrorisme. Mmh. Et le terrorisme le plus abject qui fut. Et il y a eu certains qui ont été neutralisés, mais d'autres, comme Salah Abdeslam, qui n'ont pas été neutralisés. Et à l'époque, certains disaient « ça suffit les fleurs et les bougies ». Ça suffit, il faut faire plus. Il faut en finir avec notre logique, si vous voulez, du « vous n'aurez pas ma haine », du « nous continuons à respecter l'état de droit, même quand nous sommes confrontés à des monstres ». Il me semble que là, dans une pareille situation, on voit bien que c'était la grandeur de la France que d'avoir fait comparaître Salah Abdeslam dans un tribunal, en lui garantissant ses droits, en lui donnant un avocat, sans le torturer, en le mettant en prison où il est traité, non pas comme dans un hôtel de luxe, mais correctement, ça veut dire sans être abîmé dans sa chair, dans son corps, etc. Non pas par faiblesse, mais au contraire, c'est la force de l'État démocratique que d'être fort, et de l'État de droit, que d'être fort contre son propre instinct de vengeance, qui est évidemment humain. Quand des gens commettent ces monstruosités, c'est normal dans la psychologie humaine qu'on puisse avoir l'envie de se venger. Mais quand un État se met à tomber là-dedans, et quand face à des monstres, eh bien, on imite le monstre, comme disait Nietzsche, le danger quand on combat des monstres, c'est d'en devenir un soi-même, et qu'on se met à couper leurs oreilles et à les électrocuter dans leur partie intime, etc., etc., eh bien, ça montre bien un échec, là, de la civilisation démocratique, mais qui n'était pas spécialement approuvée.
En tout cas, Georges Fenech, pour revenir effectivement sur cette vision de Gérard Vespierre qui disait, en fait, Vladimir Poutine ne veut pas y aller sur ce front face à l'État islamique, il aurait trop à perdre. Vous n'étiez pas convaincu par cette analyse ?
Moi, je pense qu'il faut rester prudent, parce que il ne faut pas confondre le monde musulman avec les islamistes terroristes. Il n'y a pas de front à craindre, me semble-t-il, de Poutine avec ces 20 millions de musulmans qui vivent dans la Fédération de Russie. Ce sont, encore une fois, des groupes... Oui. Terroriste, vous comprenez ? Moi, je serais... C'est pas la crainte d'ouvrir un front contre la communauté de confession musulmane russe. Je pense pas que ce soit ça. Je penserais davantage comme Nathan, à savoir que c'est difficile pour Poutine, qui vient d'être réélu triomphalement, qui se pose quand même en père du peuple, j'allais dire le petit père du peuple, le père du peuple, qui protège son peuple, de montrer à la face du monde les défaillances au niveau de la sécurité dans son propre pays, en plein centre de Moscou. Je crois que c'est surtout ça. Et puis, il y a probablement aussi une volonté d'instrumentalisation aussi pour aller en découdre encore davantage ou mobiliser davantage contre l'Ukraine, probablement en laissant à croire qu'effectivement l'Ukraine pourrait avoir une forme de complicité.
Alors, on va s'intéresser à présent, si vous le souhaitez, si vous l'acceptez, à la posture d'Emmanuel Macron après cet attentat. On l'a vu déjà, réaction très rapide, l'urgence, on vous le rappelle si vous nous rejoignez, l'urgence alerte attentat donc, qui a été déclenchée ce soir en France, annonce de Gabriel Attal au cours de la soirée. Emmanuel Macron, on en a beaucoup parlé, n'excluait pas, Nathan Devers, l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Dans les colonnes du JDD aujourd'hui, il plaide pour une Europe plus forte. C'est à l'Europe de prendre en main sa défense, dit-il. Mais la question se pose, comment va-t-il agir à présent? Puisqu'on voit, il y a cette menace terroriste djihadiste sur le territoire français. Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron a intérêt à montrer les muscles face à Vladimir Poutine, à continuer dans cette stratégie-là, ou alors ça peut évoluer dans les prochaines heures, les prochains jours?
L'un n'empêche pas l'autre. On a vécu une situation quasiment identique au moment de la guerre en Syrie, hein, où il y avait déjà cette lutte contre l'État islamique et l'action de la Russie de Vladimir Poutine en Syrie via Bachar el-Assad. Et il y avait déjà à l'époque des gens pour dire, face à l'ennemi commun de l'islamisme, faisons alliance avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, on le sait, les frappes de son armée et de Bachar el-Assad visaient marginalement l'État islamique, essentiellement les civils et les rebelles syriens qui n'étaient pas de l'État islamique. Et donc c'est 400 000 morts qui sont notamment beaucoup, pour la très grande majorité d'entre eux, liés à cela. On pourrait rajouter que dans la fameuse guerre en Ukraine, des islamistes, notamment via le Tchétchène, M. Kadyrov, qui ont été engagés côté russe, alors c'est pas des islamistes de l'État islamique, mais c'est des islamistes quand même. C'est des gens qui tuent des civils en disant « Allahu Akbar ». C'est littéralement ça. Donc ce sont des islamistes, se sont rangés du côté de la Russie. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis on pourrait juste dire que notre position doit être celle, précisément, de la nuance. Alors je le dis, nuance, mais, ça veut dire que... Je dis juste parce que c'est un point très important. Ouais. La critique radicale du régime de Vladimir Poutine ne doit absolument pas impliquer ce que certains appellent une russophobie ou une hostilité au peuple russe, aux civils russes et à la culture russe, qui en effet a un passé commun avec la nôtre, qui est une culture magnifique et qui est un peuple magnifique, premièrement. Deuxième nuance qui est absolument centrale, le fait que nous ayons un ennemi qui veut nous tuer, qui s'appelle l'islamisme, et un autre ennemi qui veut aussi nous attaquer et nous abattre, qui s'appelle le régime de Vladimir Poutine, le Kremlin, nous avons ces deux ennemis. On va quand même pas aller serrer la main à un ennemi pour en anéantir un autre.
Justement, les téléspectateurs, Georges Fenech, doivent se dire, la menace terroriste, on l'a vécu dans notre chair, en France. Aujourd'hui, certains se disent, mais mettons nos moyens pour lutter contre l'État islamique, Georges Fenech, et beaucoup ne voient pas de menace finalement qui arriverait du peuple russe, en tout cas.
C'est pour ça que je voulais reprendre ce que vient de dire, je le reprends amicalement bien sûr, Nathan Devers, en disant les Russes qui veulent nous détruire, nous attaquer, mais je ne vois pas, moi, de volonté d'arriver en France. Hein. C'est ce que vous avez dit. Franchement, c'est une. Je ne sais pas pourquoi nous devons, dans les mots, faire cette escalade. La crainte que je ne crois pas que la Russie ait manifesté de quelque manière que ce soit, sinon en défense ou en réponse à une autre attaque éventuelle. Mais jamais je n'ai entendu dire du Kremlin, et je ne défends absolument pas, évidemment, ni le Kremlin, ni l'agression contre l'Ukraine. Il faut défendre et il faut soutenir l'Ukraine. Mais je n'entends pas, moi, je n'ai jamais entendu de menaces directes contre d'autres pays européens et contre la France.
Tout dépend de quoi on parle. Si vous parlez de menaces militaires, d'abord, excusez-moi, on en a entendu cette semaine. Le vice-président de la Douma qui dit qu'il calcule le nombre de minutes pour faire tomber une bombe nucléaire sur Paris.
Mais le porte-parole, d'ailleurs, vous étiez là.
Non, mais bien sûr.
Aussi l'amitié entre nos deux peuples.
Mais en dehors de ça, qu'on soit en 2024, c'est une chose. Ça veut dire que les guerres ne passent pas que par des attaques militaires. Et les rapports d'adversité entre pays ne passent pas que par des attaques militaires. En l'occurrence, et vous avez raison, vous me donnez l'occasion de préciser ce que je voulais dire, la Russie attaque évidemment notre modèle. Enfin, ils le disent explicitement. On ne peut pas le dire plus clairement qu'ils ne le font. Ils ne cessent de dire que nous sommes des démocraties libérales, décadente, corrompue, dont le Premier ministre est un décadent parce que, en raison de son orientation sexuelle, que nous sommes dans une logique de droit individualiste complètement dissolu, et que eux incarnent la Grande Europe, ils mènent des opérations
destabilisantes.
Non, mais bien sûr, mais c'est une attaque contre notre modèle, avec des ingérences dans les élections, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en France, en 2017, avec des déstabilisations, on l'a vu quand il y avait des étoiles de David à Paris, avec et avec les punaises de lit, peut-être avec ces menaces contre les lycées, ça on verra, on le saura très bientôt, etc., etc. Donc ce que je dis, c'est évidemment pas que la Russie va nous envahir demain matin, encore que elle nous a quand même menacé de le faire, hein, il faut le remarquer, mais qu'on peut pas la tenir pour une alliée
Georges
sincère.
Georges Fenech, et ce sera la conclusion, peut-être voulez-vous...
Non, moi je crois que cet attentat ne va pas remettre en cause la donne du conflit Ukraine-Russe. Je pense qu'on continuera de la même manière à soutenir l'Ukraine, ça c'est évident, c'est d'autant plus que les Américains se mettent plus ou moins en retrait, mais ça ne changera pas la nature du conflit et la nature de l'aide que nous apportons, l'Europe apporte aux Ukrainiens. Et maintenant, je pense qu'il faut rester vraiment prudent dans ce que nous pouvons dire vis-à-vis de la Russie et de ne pas extrapoler sur d'éventuelles intentions d'attaquer l'Europe ou la France ou d'autres pays.
En tout cas, un grand merci, Georges Fenech. Merci beaucoup, Nathan Dever, d'avoir décrypté, d'avoir débattu, toujours avec bienveillance. Il y a eu des désaccords, ils ont pu être exprimés. Un grand merci à tous les deux. Merci à Sabrina Slimani qui m'a aidé à préparer cette émission. Restez avec nous sur CNews, puisque l'édition de la nuit, dans un instant avec Mathieu Deves, toute l'actualité qu'il faut retenir de la journée. Et je vous le rappelle à la une ce soir, la France en alerte, attentat, annonce de Gabriel Attal. Il y a 2 heures maintenant. Restez avec nous sur CNews. À très bientôt. Excellente nuit sur notre antenne.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.